du livre du prophète Ésaïe au chapitre 6, le verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici. » Envoie-moi. Amen. Où sommes-nous lorsque nous adorons ? Nous avions vu la dernière fois que la base de l'adoration, c'était de se tourner vers le Seigneur Jésus, non pas simplement avec notre bouche, mais avec tous nos sens, et que l'adoration tendait même vers la contemplation. Et que nous avions souligné que pour contempler un paysage, il fallait prendre le temps de le faire. Deuxième endroit où nous sommes lorsque nous adorons, nous sommes auprès du trône. Pas n'importe quel trône, mais un trône victorieux où est assis l'agneau de Dieu qui est également le lion de Juda. Nous sommes auprès d'un trône où il y a cette grande mer et où le Seigneur Jésus voit tout. Nous sommes assis auprès d'un trône où nous avons l'assurance de trouver un secours opportun. Nous sommes assis auprès d'un trône où il y a notre ami, où il y a notre maître qui nous aime et qui veut nous secourir. Tout comme le prophète Ésaïe, parfois, les fondements peuvent être quelque peu renversés dans notre vie. Tout comme le prophète Ésaïe, on peut se laisser quelque peu gagner par le climat ambiant. Mais tout comme le prophète Ésaïe, nous pouvons connaître un relèvement profond de la part de Dieu en contemplant la beauté, la puissance et le côté grandiose de ce qui se passe dans le ciel. Les choses pâlissent comme nous avons l'habitude de le chanter devant la sainteté de notre Dieu. Je crois que c'est bien vrai. Je crois de tout mon cœur qu'en ressortant de ce lieu, vous ne verrez plus les arbres de la même manière. Vous ne verrez plus votre épouse, votre époux de la même manière. Mais quelque chose aura changé dans votre regard. Troisième endroit où nous sommes, lorsque nous adorons, nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Adorer Dieu, c'est prendre conscience de sa gloire. Premièrement, sa gloire dans le ciel. Ici, le livre, le prophète décrit sa vision. Il décrit notamment des êtres célestes qui rendent un culte à Dieu. Et mes frères, mes sœurs, mes chers amis, sachons bien que nous qui sommes nés de nouveau, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, un jour nous nous joindrons à cette multitude céleste. C'est quelque chose qui nous paraît étrange, c'est quelque chose qui nous paraît parfois un petit peu fou. Mais un jour nous serons avec les anges. Un jour nous nous joindrons au chant des anges. Un jour, nous pourrons contempler la gloire de Dieu et adorer, puisque l'adoration est l'activité principale que nous pouvons trouver dans le ciel. La gloire on peut y trouver la gloire qui nous y est réservée. Vous savez, quand on tourne les pages de la Bible, on s'aperçoit que bien des choses nous sont réservées dans le ciel. Nous régnerons avec lui, nous régnerons avec Jésus durant cette période du millénium. Mais nous ne régnerons pas avec lui comme des souverains, mais comme des vainqueurs. Lorsque dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, on voit ces anciens qui sont au pied du trône, ces anciens qui symbolisent l'Église et à qui la couronne de justice a été remise, ces anciens, cette couronne, il ne leur a pas été remis un diadème, une couronne, un diadème en grec diadéma, qui est la couronne des souverains, mais il leur a été remis la couronne des vainqueurs, Stéphanos en grec, celle que le Seigneur Jésus a acquise pour nous. Lorsque nous contemplons, lorsque nous sommes dans l'adoration, on contemple également notre incorruptibilité à venir. Ce temps où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de tentation. Lorsque nous sommes dans la gloire, dans l'adoration, nous contemplons ce geste extraordinaire lorsque le Seigneur Jésus viendra essuyer nos larmes avec sa main. Lorsque nous sommes dans l'adoration, nous réalisons que nous aurons une gloire encore bien plus supérieure à celle des anges. La Bible le décrit d'une manière très claire. dans le livre de l'Apocalypse, on voit ces anciens donc, qui symbolisent l'Église, qui sont assis auprès du trône, tandis que les anges sont derrière, debout à servir. Notre gloire dans le ciel sera supérieure à celle des anges, sera au-delà de celle des anges. Quelle perspective extraordinaire! Non? Vous imaginez? On sera au pied du trône de la gloire, auprès du trône de la grâce, et là, on sera assis, on sera au pied du Seigneur Jésus, sans aucune douleur, sans aucune tentation possible, sans aucune souffrance, sans aucune inquiétude. Attendez, on comprend mieux l'apôtre Paul, hein, qui disait, pour moi, je sais ce que c'est que le meilleur, hein, c'est de partir, mais bon, pour vous, il faut que je reste. On comprend mieux cette vision de cet homme qui en plus avait été ravi et avait contemplé ces choses-là. Lorsque j'adore, lorsque je contemple, ces vérités bibliques viennent se graver dans mon cœur. Je suis dans la gloire de Dieu. Je vis les prémices de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque je vais passer rapidement sur... les anges qui sont décrits ici, que l'on retrouve également dans Apocalypse 4. Je vais arriver directement à la conclusion. Mais sachez bien une chose, c'est que l'adoration, le trône de Dieu en est entouré. Et lorsque j'adore, je dresse un trône particulier dans ma vie, à mon Dieu. Et ce matin, je me faisais la réflexion de me dire à moi-même, mais c'est certainement pas vrai pour tout le monde, est-ce que l'adoration est mon état normal? Ou alors, est-ce que je suis plus axé sur la supplication, sur la prière? Ou bien, est-ce que je dresse ce trône dans ma vie? Seigneur, je t'adore pour ce que tu es. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, peu importe les vents contraires. Mais je veux me joindre aux anges dans le ciel. Et je veux adorer qui tu es. Glorifier tes attributs, glorifier ta personne, glorifier tes sentiments. On se fera du bien. Mon frère, ma sœur, retrouve cette notion d'adoration. J'allais dire, quitte cette terre. Gardez bien les pieds sur terre, hein, et la tête sur les épaules. Ne devenez pas des mystiques, c'est pas du tout le but de ma prédication. Mais que notre cœur soit bien là-haut et qu'il sache aller contempler la gloire à venir qui nous est réservée dans le ciel. Alors me direz-vous, mais si cette gloire est évidente dans le ciel, sur la terre, elle n'y est pas. Si, les pans de la robe étaient déjà dans le temple. Et moi je crois que toute la terre et les anges qui étaient à côté, que Esaïe voit, qu'est-ce qu'ils disent? Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est pas possible. Toute la terre n'est pas remplie de sa gloire. Lorsque nos yeux voient ce que nous voyons, mais c'est quelque chose qui est impossible. Quel contraste entre la déclaration osée de la Bible et ce que nous pouvons vivre. Ce que nous vivons fait partie de la gloire de Dieu, tout simplement parce que ce sont des choses que Jésus lui-même avait annoncées. Jésus n'a pas voulu que ses disciples soient dans l'ignorance et ses disciples lui ont demandé « Mais quand est-ce que tout cela arrivera ?» hein? Eh bien, relisez Matthieu 24, Matthieu 25, et là vous aurez les signes qui accompagneront le retour du Seigneur Jésus. Catastrophes, les famines, les guerres, toutes ces choses-là, je vais peut-être vous étonner, mais ont été annoncées par le Seigneur et en quelque sorte contribuent à glorifier sa parole, à glorifier ce qu'il a dit. Vous savez, mes frères et sœurs, la gloire de Dieu, elle nous paraît bien terne peut-être dans nos vies. Lorsque je contemple tout ce qui me manque, j'ai pas de Ferrari. Je ne peux pas vivre. Sur mon compte en banque, c'est limite. Il me manque toujours la robe ou le pantalon de dernier cri. C'est pas possible, je ne peux pas vivre. Quand on contemple tout ce qui nous manque, ça devient une catastrophe. Plus sérieusement, lorsqu'on contemple nos besoins financiers, lorsqu'on contemple nos besoins affectifs, lorsque on regarde les conflits que nous pouvons vivre, les problèmes dans notre travail, j'en passe, c'est les meilleurs. Alors oui, effectivement, parfois la gloire de Dieu sur cette terre, elle peut nous paraître bien terne. Pourtant, la Bible l'affirme, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. De la même manière que Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Oui, je vais partir, oui, je vais m'en aller, mais je monte, eh bien vous préparez une place. Et lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, alors levez les yeux. Levez les yeux. Regardez là-haut, regardez la gloire qui vous attend. Ne regardez pas ce qui se passe en bas. Sinon, vous allez tomber dans la neurasthénie, mes frères et sœurs. Si vous vous nourrissez du journal de TF1, la 2 c'est la même chose, vous allez tomber dans la neurasthénie. Non pas qu'il ne faille pas regarder les informations, prenez du recul. Lorsque je regarde et lorsque je passe mon temps à contempler tous les manques de ma vie, oui, c'est sûr que je ne vois pas la gloire à venir. Pourtant la Bible dit que la terre entière est remplie de sa gloire. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et même dans ces choses parfois tragiques, eh bien nous voyons quand même la main du Seigneur qui tient le monde, qui conduit le monde. La terre entière est remplie de sa gloire. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 51 au verset 46 dira « Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence règnera dans le pays, un dominateur s'élèvera contre notre dominateur, etc. » Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas. La terre entière est remplie de sa gloire. Contemplons-la. Regardez votre main, elle contribue à la gloire de Dieu. Regardez toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Le souffle de vie qui vous est donné jour après jour. Votre famille, votre église, votre pasteur. Fabuleux. Pourquoi tout le monde rigole ? La terre entière est remplie de sa gloire. Dans l'adoration, le monde nous semblera beaucoup plus beau. Tout simplement parce que nous contemplerons la gloire de Dieu dans notre monde. Et l'adoration nous poussera à agir. À partir du moment où j'ai bien conscience de l'imminence du retour du Seigneur Jésus, à partir du moment où j'ai conscience de l'héritage qui m'est réservé là-haut, qui ne peut ni se souiller, ni être volé, ni être corrompu, alors, de ce fait, automatiquement, il se passe des choses en moi. Et l'action devient quelque chose qui est naturel. Cette action, cette adoration me pousse à quoi ? Premièrement, à faire ce que l'apôtre Jean fera pour conclure quasiment le livre de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus, viens. L'Esprit et l'Église disent, viens. Pourtant, Jean vient de contempler des choses terribles, des choses qu'il ne comprend pas, des choses d'une violence inouïe. Et quel est le constat de son cœur ? Viens, Seigneur Jésus. Ce n'est pas « empêche-les », mais c'est « viens, Seigneur Jésus ». Viens, Seigneur Jésus. Je pense que ça doit être également notre attitude de dire « Seigneur Jésus, viens ». Deuxième attitude, veillez sur notre communion avec lui. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte de lui. Demeurez en lui. Ce n'est pas simplement soyez un petit peu attachés, mais demeurez en lui. Troisième, je passe rapidement, tout ça vous le connaissez. Lorsque je contemple la gloire de Dieu, alors je travaille à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tout ce que je souhaite et tout ce que je veux, c'est hâter son avènement. 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » J'aime bien ces deux mots qui sont juxtaposés. « Tandis que vous attendez », nous on s'imagine comme attendant le bus, c'est-à-dire en ne faisant pas grand-chose. Mais l'apôtre Pierre ajoute « et hâtez l'avènement de Dieu ». Je peux hâter l'avènement du Seigneur. Comment ? Par mon intercession, de par mon témoignage, de par mon travail, etc., je peux hâter l'avènement du Seigneur. Je crois que lorsque je dois réaliser l'importance de l'adoration dans ma vie, parce que lorsque j'élève Dieu, non seulement je repasse sa gloire, mais en plus, ça m'entraîne dans une action positive. Ça m'entraîne dans un service positif. L'intercession, la prière sont d'excellentes choses. L'action de grâce est une excellente chose. Mais l'adoration nous entraîne dans une spirale positive qui elle-même, je pense, générera l'action de grâce, la prière, l'intercession, etc. Plus nous aurons conscience de la beauté de Dieu, plus nous aurons conscience de la puissance de Dieu, de ce qu'il recèle, de son identité, et plus nous aurons de la joie et du zèle pour le servir. Mon frère, ma sœur, contemple ton Dieu. Contemple ton Dieu. Repasse sur ton cœur tous ses attributs et tout ce qu'il est. Quatrième point, enfin plutôt deuxième pour aujourd'hui. Hein. Lorsque j'adore, je suis près du cœur de Dieu et je sais ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas un titre très accrocheur, certes. C'est celui que j'ai choisi. Faut-il le redire ? Dieu est une personne. Dieu n'est pas une puissance. Certes, Dieu est une personne puissante. Mais Dieu est une personne qui a des sentiments. Des sentiments parfois étonnants. Il peut être jaloux, il peut se mettre en colère. C'est étonnant ça, hein ? De la part de quelqu'un qui est parfait. Je n'épiloguerai pas, ce n'est pas là le débat. J'y reviendrai un jour. Dans sa présence, je ressens son cœur. Et le prophète Ésaïe va ressentir énormément de choses durant cette vision, va vivre énormément de choses durant, j'allais dire, cette contemplation. Première chose, malheur à moi. Vous allez me dire, j'ai pas envie d'aller devant le trône de Dieu pour dire malheur à moi. Mais vous remarquez, ce n'est pas Dieu qui dit malheur à toi. Mais c'est le prophète qui, de fait, dit malheur à moi. Il prend conscience qu'il y a un décalage entre les attentes du cœur de Dieu qui lui est à ce moment-là ouvert et ce qu'il est, ce qu'il a vécu. Malheur à moi. L'apôtre Paul dira en quelque sorte un petit peu la même chose après avoir fait un constat terrible, c'est qu'il était incapable de faire le bien qu'il voulait faire et qu'il ne faisait pas qu'il faisait en revanche le mal qu'il ne voulait pas faire. Vous savez, dans l'adoration, il y a quelque chose qui vient, et je l'ai expérimenté, et d'autres l'ont expérimenté, c'est que les choses se remettent bien à leur place. Dieu est sur son trône, on est au pied du trône. Lui, il a la couronne du souverain, nous, on a la couronne des vainqueurs. Il faut se souvenir que le péché, comment est-il venu dans le monde ? Le diable est venu souffler à l'oreille d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Mais si vous mangez ce fruit, vous serez comme de Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme lui. Changement d'échelle. Ève s'est assise sur le trône. Adam avec. Ne faisons pas de remarques misogynes. C'est pas mon style. L'ordre des choses a été renversé. Le diable a été déchu après avoir voulu prendre la place de Dieu. L'ordre a dû être bousculé. Je ne sais pas pour vous, mais la soumission, chez moi, ce n'est pas quelque chose d'inné. Personne ne m'a jamais appris à désobéir. Par contre, il a fallu qu'on m'apprenne à obéir. Ça n'a pas forcément été simple. Lorsque je suis devant le trône et que j'ai ce cœur à cœur avec Dieu, il se passe quelque chose. C'est que je reviens à ma place. En élevant ce qu'est Dieu, en élevant la personne de Dieu, je reviens à ma place. Et l'obéissance me devient quelque chose de naturel. J'ai plus besoin que le pasteur soit avec le fouet derrière moi pour me dire obéis. Il n'a pas assez de bras. Et puis lui-même aurait besoin de quelqu'un pour le fouetter, donc c'est pas drôle. Mais automatiquement, parce que j'ai contemplé qui était Dieu, alors il me semble logique de lui obéir. Il me semble naturel de lui obéir et de lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de ma part quelque chose de logikos, quelque chose de logique ou de raisonnable. Deuxième chose que le prophète va constater, c'est que je suis un homme impur. Pour nous, la chose est quelque peu différente, puisque nous pouvons nous approcher avec l'assurance. Nous sommes sous la grâce d'être revêtus par le sang de l'agneau, d'être revêtus par de pouvoir rentrer dans l'œuvre de Jésus. Lorsque j'ai confessé mes péchés, lorsque j'ai demandé pardon à Jésus pour mes fautes, il me les a pardonnés. Pas besoin de faire le tour de Nantes sur les mains. Ça sert à rien. Sinon, de se retrouver avec une chemise qui s'attache dans le dos. Ça ne sert à rien. Mais Jésus nous a pardonné nos péchés, nous a pardonné nos fautes. Et lorsque j'adore, lorsque je suis devant le trône, je me souviens quand même de la grâce qui m'a été faite. Parce que ce n'est pas complètement ma place. Ce n'est pas logique que moi je sois assis et que les anges soient derrière. Ce n'est pas logique que mon Dieu ne s'occupe que de moi. Si. Ce n'est pas logique que le Dieu créateur de toutes choses puisse s'occuper de moi. Et donc, la reconnaissance est dans mon cœur. Puis le prophète va dire, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et là, une question étrange m'est venue sur mon cœur. Et j'aimerais la poser à quelqu'un. Où habites-tu ? Je ne parle pas de la maison, je ne parle pas du contexte géographique, quoique. Mais je voudrais te demander, où habite ton cœur ? Je m'éloigne de mon sujet. Où habite ton cœur ? Lot a choisi les plaines vertes et a choisi de faire habiter son corps à Sodome. Mais son cœur y est resté, ou du moins son cœur a été difficile à déraciner. Le cœur de sa femme y est resté. Où habite ton cœur ? Ce matin en priant, j'ai eu l'intime conviction que quelqu'un avait son cœur qui était projeté dans un rêve malsain. Son corps est ici ce matin. Mais son cœur a déjà prévu quelque chose. Son cœur a déjà prévu, a anticipé, et un ultimatum a été posé à Dieu. Si tu n'agis pas en 6 mois ou en 8, alors j'accomplirai ce que mon cœur a mûri. Ne peux pas faire de chantage à Dieu, mon frère, ma sœur. Où est ton cœur ? Ton cœur est déjà projeté vers l'avant. À ce moment-là, le Seigneur ne peut pas agir. Ramène ton cœur dans ce lieu. Ramène ton cœur près de la gloire de Dieu. Où habite ton cœur ? Je reviens. Il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres étaient impures. Et quelle est la conséquence ? Lui-même commençait à avoir des lèvres qui étaient impures. Il va le dire. Mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mon père disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il avait raison. Le contexte dans lequel nous évoluons impacte automatiquement ce que nous sommes. Il y a certains milieux. On peut y rester pendant un temps. Et puis, en adorant, en se tenant auprès du trône, ben on s'aperçoit que il y a comme une incohérence. Il y a comme quelque chose qui cloche. Il y a des choses qui ne sont pas forcément nuisibles, qui ne seront pas nuisibles pour Cédric, mais qui pourront l'être pour moi. Il y a des milieux qui ne pourront pas être nuisibles pour Céline, mais qui pourront l'être pour moi. Et lorsque je me tiens près du trône de Dieu, là, je contemple la beauté, je contemple la grâce, je contemple la puissance de Dieu, et je retourne dans ces lieux, je sens que ça ne colle pas. Je sens qu'il y a une incohérence. Pourtant, Esaïe, les belles lurettes, il avait l'habitude de vivre dans ce contexte-là. Lignée royale, je le répète. Mais ça ne collait plus. À ce moment-là, il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures. Et que son peuple, que le contexte dans lequel il vivait était impur. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un ange est venu. L'autel, sacrifice, etc. Je n'ai pas besoin de le détailler. Et cet ange va purifier ses lèvres. Jésus est capable de purifier ton cœur. C'est où que c'est malade ? C'est où ? J'ai pas besoin de le savoir. Dis-le au Seigneur. Monte, élève-toi. Il purifiera. Il est capable de le faire. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Esaïe a les lèvres purifiées ? Que dit-il ? J'entendis la voix de l'Éternel. Je veux dire, comme par hasard. Tu as du mal à entendre la voix de Dieu ? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin qu'un charbon vienne quelque part ? Peut-être. T'aimerais être sensible aux dons spirituels ? Vraiment, que le Seigneur parle à ton cœur, vivre, j'allais dire, un petit peu de surnaturel, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin qu'un bout de charbon vienne purifier ton cœur ? Purifier tes projets, purifier ce que tu regardes, purifier ce que tu touches, purifier ce que tu fréquentes. Et de la même manière, à partir du moment où ça aura été fait, toi aussi tu pourras dire « J'entendis, j'entendis ». Et on se souvient, et vous en souvenez certainement, que le moyen favori ou privilégié de Dieu pour nous communiquer la foi, c'est ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit. Quid de la prédication de dimanche dernier dont vous vous souvenez tous, j'en suis certain. J'entendis. Et qu'est-ce qu'il va entendre ? Qui enverrai-je ? Le besoin de Dieu. Tout d'un coup, ça devient évident. Il y a bien des choses qui se passent lorsqu'on donne sa vie à Jésus ou alors lorsqu'on laisse le Seigneur purifier une partie de nos vies. Lorsqu'on lui ouvre une porte, il y a bien des choses qui bougent. Le prophète commence à entendre et deuxièmement, il comprend les besoins de Dieu. Ça fait beaucoup, hein ? Ça vous bouleverse une vie spirituelle. Troisièmement, mes aïeux, il se pose plus de questions. Ben envoie-moi. Si tu me parles, c'est que c'est à moi. Si c'est moi qui entends ça, c'est que c'est moi qui suis concerné. Envoie-moi. Mais, Esaïe, concrètement, t'as même pas testé que tes lèvres étaient plus impures. T'as même pas testé ta capacité à tenir au milieu de ton peuple. T'es en train de faire une folie. C'est la folie de la foi, ça. Tout simplement, quand on entend la voix de Dieu, ce que l'on est, ça ne compte plus. Lorsque j'adore le Seigneur, ce que je suis, ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est lui. Lorsque je suis dans sa présence, ce que je suis, ça ne compte plus. C'est lui qui compte. Parce que c'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me rend capable. Et si le prophète Esaïe va pouvoir parler de la part d'eux, puisque c'est le sens du mot, c'est parce que ses lèvres vont avoir été purifiées. Mais c'est surtout parce que quelque part, il va rentrer dans cette dimension de la foi. Crois, mon frère, ma sœur. Le Seigneur t'a parlé. Crois. A déposé quelque chose ton cœur ce matin. Crois-le. Rentre dans cette dimension de la vie de foi, la certitude. Esaïe ne se pose plus de questions. C'est terminé. C'est fini. Et il va rentrer pleinement dans la mission qui était la sienne, au milieu du même peuple, dans la même enveloppe charnelle. Mais simplement, avec un cœur qui a été transformé et qui a été purifié. Que le Seigneur nous aide. En conclusion, adore. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Adore, pas simplement le dimanche matin, mais que toute ta vie, que chaque instant, soit une posture d'adoration pour ton Seigneur et pour ton Dieu. Nous allons prier.